Eh bien, ce soir, dans ça se passe près de chez vous. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Jean-Marc.
Nous recevons un nouvel invité en la personne de Monsieur Guérit. Alors, il est connu, Monsieur Guérit. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes connu avec l'association Rambouilleten Art et Partage, où il y a eu le salon il n'y a pas très longtemps à Rambouillet. Mais vous avez une autre casquette, puisque votre autre dada, c'est la transition écologique, ce sont les énergies et c'est le changement climatique. Avec Stéphanie Petit, on va vous poser quelques questions, mais peut-être pourriez-vous rapidement nous présenter ce parcours personnel et professionnel qui vous a amené à vous intéresser à ces questions, à enseigner en France et également lors de conférences à l'étranger.
Oui, tout à fait. Moi, je suis de formation ingénieur et économiste. J'ai passé toute ma carrière professionnelle dans le groupe Total Energy. C'est pas un gros mot, hein, Total Energy.
Non, on n'a rien dit.
Je précise bien ce point-là. J'ai eu des responsabilités tout à fait intéressantes. En particulier, j'ai eu l'occasion, pendant les années 90 à 95, d'être responsable pour le nouveau business développement entre Total Energy et les sociétés russes, suite à la chute du mur et suite au démantèlement de l'ex-URSS. Et pendant 5 ans, ça a été une expérience passionnante où j'ai pu rencontrer des partenaires russes et kazakhs avec qui on s'entendait très bien, et tous ces gens-là souhaitaient développer la coopération économique avec l'Occident. Et quand je vois la situation aujourd'hui, inutile de vous dire que ça me fait beaucoup mal au ventre. Voilà. Bon, ceci étant, je suis parti à la retraite en 2010, et en 2010, j'ai rejoint une association qui est liée au groupe Total, qui s'appelle Total Energy Professeur Associé, qui est une association loi 1901, qui reliait d'ailleurs la fondation Total, et dont l'objectif, c'est pour les jeunes retraités, et ainsi que certains actifs, c'est de transmettre leur expérience professionnelle à des jeunes et de donner des cours dans leur domaine de spécialité. Et depuis 2010, c'est ce que je fais. Ma spécialité, c'est le monde de l'énergie dans l'économie globale, la transition énergétique, le changement climatique. Et j'ai eu l'occasion, et je donne toujours des cours dans les grandes écoles françaises, dans les universités étrangères et également des petites conférences dans les lycées et les collèges.
C'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt depuis quelques années.
Absolument. Et je rajouterais que tout ceci se fait dans un cadre de bénévolat.
D'accord. On va poursuivre sur ces questions, Stéphanie.
Oui, tout à fait. C'est marrant, quand vous vous êtes présenté, vous avez dit Total Energy, c'est pas un gros mot. Pourquoi une telle remarque?
Vous savez sans doute que cette société, elle est toujours pas mal critiquée, notamment en France, par les consommateurs, par les citoyens, alors que c'est à mon avis pas très justifié. Par contre, elle est reconnue et reconnue dans tous les pays étrangers comme étant un leader du monde de l'énergie et également de la transition énergétique.
Alors cette transition énergétique, on avait abordé un petit peu hors micro cette question. Vous ne faites pas partie, ça, on insiste bien dès le début, comme ça les choses seront claires, des climato-sceptiques. Et le changement climatique, c'est bien une réalité auquel nous sommes confrontés et il va falloir trouver des solutions.
Absolument, il faudra trouver des solutions.
Comment vous envisagez, comment vous voyez les tendances, les prochaines tendances?
Alors, si vous me permettez,
je vous en prie.
J'aimerais bien qu'on revienne tout à fait à la base de la problématique. Parce que quand on parle de changement climatique, on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et notamment d'émissions de CO2. Alors, c'est important de se rappeler quand même que le CO2, c'est un élément chimique et vital dans la vie de tous les jours. On regarde le phénomène de la photosynthèse, la végétation elle absorbe du CO2, elle rejette de l'oxygène. L'être humain, quand il respire, il absorbe de l'oxygène, il rejette du CO2. Et puis les matières organiques, quand elles se décomposent, naturellement, elles rejettent aussi du CO2 dans l'atmosphère. Et donc le CO2, il est vital dans la vie quotidienne des gens et dans la société. Alors d'où vient ce problème du CO2? On se rappelle que la composition d'atmosphère, on a appris ça au collège, je pense, hein, me semble-t-il.
Lointain souvenir, je ne me souviens plus très bien.
La composition d'atmosphère, c'est quoi? Rappelez-vous, il y a 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% d'autres gaz. Et parmi ces 1% d'autres gaz, le plus important, c'est l'argon, qui est un gaz qui est émis naturellement par la croûte terrestre. Et le CO2 représente 0,04%. On peut l'exprimer aussi en termes de ppm. Partie par million, c'est de l'ordre de 400 ppm. Donc c'est un pourcentage extrêmement infime dans la composition de l'atmosphère. Alors c'est quand même assez paradoxal de voir que finalement, il pose beaucoup de problèmes au niveau du réchauffement climatique, ce CO2. Avant la révolution industrielle, on avait dans l'atmosphère une concentration de 280 ppm de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire 0,028%. Aujourd'hui, on est à 400 130 ppm, presque 430 ppm. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation considérable de cette concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et c'est cette augmentation qui est générateur des problèmes que nous connaissons aujourd'hui et qui conduit à la création d'un effet de serre supérieur à l'effet de serre naturel qui conduit à une augmentation de la température au niveau de la planète. Voilà l'origine de la problématique. Il ne faut pas perdre ça de vue.
Et pourtant, je jouais les naïfs et les candides, enfin les mauvaises fois. Il y a eu dans l'histoire de la planète et l'histoire des civilisations des périodes où il a fait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui.
Alors, vous avez parfaitement raison, Jean-Marc. Et c'est un argument que... que sortent de, assez souvent
les climato-sceptiques.
Mais il faut aussi raisonner sur les périodes de temps. Hein. Là, ce dont on parle au niveau de la problématique actuelle, c'est que cette augmentation de teneur en CO2 dans l'atmosphère, elle s'est étalée sur à peu près 2 siècles, ce qui est une période de temps extrêmement limitée. Et on le constate tous les jours. On le constate tous les jours qu'il y a des conséquences au niveau du changement de climat, avec les événements extrêmes que l'on connaît maintenant, et la hausse de température. Aujourd'hui, par rapport à l'ère pré-industrielle, on a quasiment atteint une augmentation de 1,5 degré, c'est-à-dire l'objectif qui était fixé lors de l'accord de Paris pour l'année 2100. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire pour résoudre ces difficultés.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous disiez. On constate effectivement des événements majeurs qui témoignent donc du réchauffement climatique à un niveau plus local, c'est-à-dire dans les Yvelines, et plus particulièrement dans le sud Yvelines. Est-ce que pour vous, les inondations qu'ont connues le sud Yvelines en 2024 sont un symbole de ce réchauffement climatique ?
Bah, indirectement, on peut le penser. Le problème, vous savez, c'est la planète est un monde finalement assez fermé, et tout ce qui se passe en Chine, bah, au bout d'un moment, ça peut avoir des conséquences à l'autre bout de la planète. C'est ça la difficulté. Et on constate aujourd'hui beaucoup d'événements extrêmes à plusieurs endroits de la planète, et y compris dans les petites régions françaises où il y a des difficultés qui conduisent à des dégâts importants sur l'environnement. Et ça peut constituer effectivement une preuve de l'existence de ce changement climatique.
Je vous propose de faire une rapide pause, on se retrouve tout de suite. Voilà, reprise de Ça se passe près de chez vous avec Stéphanie Petit de Toutes les Nouvelles. Stéphanie, une question à notre invité.
Oui, nous sommes toujours avec Christian Guérit. On continue à parler d'écologie, de transition énergétique, de climat. Avant cette pause, on parlait des inondations dans les Yvelines qui ont eu lieu en 2024. Mais une autre question aussi qui concerne les Yvelines. Quels sont pour vous les changements perceptibles dans les Yvelines en lien avec le réchauffement climatique ?
Alors effectivement, dans les Yvelines, il peut y avoir un certain nombre de phénomènes climatiques que l'on constate. Vous avez parlé tout à l'heure des inondations. Alors ça peut évidemment correspondre à des phénomènes locaux, mais quand on regarde un petit peu sur le long terme, on s'aperçoit qu'il y a une fréquence beaucoup plus importante de ces phénomènes. Et puisque vous me posez la question, moi je suis rambouillitain de souche, hein. Je suis né à Rambouillet, j'ai vécu avec mes parents pendant toute leur vie, j'habitais rue Pasteur, j'ai fait toute ma scolarité au lycée de Rambouillet, j'ai même inauguré le lycée de Rambouillet quand je suis rentré en 6e dans les années 1960-61. Et je me souviens que quand j'étais adolescent, avec mon père, on faisait du patin glace sur les canaux du château. Eh bien, je crois que c'est plus possible maintenant.
Effectivement.
Ou du moins, c'est beaucoup plus rare. Il y a une 50aine d'années, effectivement, une 60aine d'années, il y avait de la glace sur les canaux du château de Rambouillet, qui perdurait pendant tout l'hiver.
Tout l'hiver.
Plusieurs mois.
Plusieurs mois.
Voilà. Bon. Ça n'existe plus.
Effectivement. Donc, c'est une question importante parce que ça permet d'avoir individuellement, dans la vie quotidienne, un petit repère. C'est pas quelque chose, un phénomène violent, comme on pourrait le dire dans certains films d'anticipation qui font plus de mal au moral qu'autre chose, mais ce sont des petits des petits indices. Avec tout ça, Monsieur Guérit, avec ce changement climatique, comment peut-on faire justement pour continuer à se développer, à avoir une croissance économique, et puis en même temps, comment dirais-je, avoir un besoin d'énergie et continuer avec les énergies fossiles, puisque celles-ci sont effectivement ont un rôle important dans le changement climatique.
C'est effectivement le sujet de débat permanent qui d'ailleurs est discuté chaque année lors des fameux COP les Conference of the Parties. Hein, vous savez que on a beaucoup parlé de la COP21 à Paris, qui a défini les orientations, les objectifs pour limiter la hausse de température dans les décennies à venir à l'horizon 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. La COP30 qui s'est tenue à Belém et qui s'est clôturée, je dirais, avec des conclusions relativement légères et assez peu ambitieuses par rapport aux enjeux. Tout ça, c'est des illustrations, je dirais, des préoccupations et des réflexions des grandes organisations internationales, des gouvernements et des citoyens. Alors peut-être que pour commencer, il faut revenir, je dirais, à la situation actuelle du monde de l'énergie dans le monde et dans le monde économique. Aujourd'hui, la planète consomme à peu près 16 milliards de tonnes d'équivalent pétrole en énergie primaire.
C'est-à-dire énergie primaire pour nos auditeurs.
Alors l'énergie primaire, ce sont les sources d'énergie que l'on trouve dans la nature, telles quelles. Alors vous avez le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire avec l'uranium, vous avez la biomasse, vous avez l'hydraulique et vous avez les énergies renouvelables. Aujourd'hui, les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, ça représente 80% de ce mix énergétique en énergie primaire. Le nucléaire à peu près 5%, l'hydraulique 2%, la biomasse reste encore assez importante puisqu'on parle à peu près 10%. Alors je rappelle que la biomasse, c'est tout simplement c'est quoi ? Bah c'est le bois et le charbon de bois. Et cette énergie-là, elle est principalement utilisée dans les pays, je dirais, en voie de développement, en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup de gens qui continuent de faire la cuisine en brûlant du bois et de chauffer en brûlant du bois. Mais aujourd'hui, le monde, il est géré principalement, le monde de l'énergie, il est géré principalement par les énergies fossiles. Alors, les énergies fossiles, ce sont elles qui sont la cause des émissions de CO2. Éventuellement, on pourra parler du méthane un petit peu après, mais enfin, le méthane aussi, c'est un gaz à effet de serre qui est important, qui est le deuxième gaz à effet de serre après le CO2, et qui provient également de l'industrie, pétrolière en particulier, et également de l'agriculture. Voilà. Donc, l'idée, c'est de limiter l'utilisation dans le futur des énergies fossiles qui émettent le plus de CO2. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez les énergies fossiles, vous les brûlez dans des outils industriels. Alors, les outils industriels, c'est quoi ? Pour l'électricité, par exemple, c'est les centrales thermiques. Pour faire fonctionner une centrale thermique, on brûle du charbon, on brûle du gaz. Le pétrole n'est pas trop utilisé pour les centrales thermiques. Dans les transports, pour utiliser votre voiture, vous êtes obligé de brûler de l'essence ou de diesel qui proviennent du pétrole. Et tout ça, ça émet du CO2 dans l'atmosphère. Et pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, quand vous brûlez aujourd'hui une tonne d'énergie fossile, vous émettez 2,8 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la planète émet dans l'année 35 milliards de tonnes de CO2. Donc ça vous fixe un petit peu les sortes de grandeur. Alors ces montants-là, bien sûr, ils sont beaucoup trop importants. Et l'idée, pour essayer de limiter les dégâts du réchauffement climatique, qui viennent du CO2 encore une fois, eh bien c'est de limiter ces émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir.
Alors justement, moi j'ai une question. Pour concurrencer ces énergies fossiles, quelle part doit être produite pour les énergies plus respectueuses de l'environnement ? Je pense au biogaz notamment. Comment concurrencer en fait ces énergies fossiles ?
Il faut donc...
À quelle échelle ?
Il faut donc trouver les moyens à long terme, parce que tout ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est évident, en raison de l'inertie du système énergétique mondial.
Je vous pose la question parce qu'on a déjà des exemples concrets de biogaz, alors, de véhicules, par exemple de bus qui roulent au biogaz.
Oui, alors ça c'est pour la mobilité. Alors il faut regarder comment on peut jouer sur les différents types d'utilisation des services qui utilisent l'énergie. Alors vous avez la fabrication d'électricité, vous avez la mobilité, le transport, et puis vous avez également tout ce qui se passe dans les bâtiments, pour le chauffage des bâtiments, pour l'isolation des bâtiments, etc., etc. Alors vous citez le biogaz. Bien sûr, le biogaz, ça se développe en ce moment, mais pas des proportions quand même très très importantes, malheureusement.
Justement, à quelle proportion il pourrait arriver à concurrencer?
Alors, il faut raisonner de manière globale. Vous avez aujourd'hui les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie. Ils viennent de sortir leur rapport d'ailleurs de 2025, ils en font un chaque année. Ils ont un scénario, mais c'est un scénario qui est absolument inatteignable. C'est arriver à un net zéro emission en 2050. En 2050, on n'émet plus de CO2. En net. Bon, inutile de vous dire. Alors, en fait, ils ont fait ça un petit peu, un calcul à l'envers, pour essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mais c'est évidemment impossible à atteindre. Donc, l'idée, c'est de limiter, en effet, cette proportion d'émissions de gaz à effet de serre de plus en plus importante dans les décennies à venir. Et il y a plusieurs moyens de le faire. Alors, il y a effectivement remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Le biogaz, c'est une énergie renouvelable. Pourquoi ? Parce que ça vient de la végétation, ça vient de l'utilisation, je dirais, de la biomasse. Et par définition, la biomasse est considérée comme une énergie renouvelable. Mais ça fait pas partie, le biogaz, je dirais, des moyens les plus importants pour lutter contre le changement climatique. Hein. Il y a d'autres moyens, notamment, on insiste beaucoup aujourd'hui, et vous avez pu le constater régulièrement à la lecture de différentes revues scientifiques et techniques, c'est que on met beaucoup l'accent sur le solaire et l'éolien en particulier, qui sont des énergies renouvelables, qui sont en train d'être développées de manière massive au niveau de la planète.
Je propose qu'on fasse une pause. Stéphanie, on se retrouve dans quelques instants.
On fait une courte pause.
Une courte pause.
On est toujours sur Ça se passe près de chez vous et nous sommes toujours avec Monsieur Guérit. Juste avant la petite pause, on parlait des différentes énergies, notamment du biogaz. Qu'en est-il du solaire, du photovoltaïque, plus prosaïquement?
Parmi les énergies renouvelables qui ont le vent en poupe, hein, et pour lesquelles au plan mondial il y a un développement tout à fait considérable, effectivement, vous avez le solaire et l'éolien. Depuis une quinzaine d'années, on peut voir que les capacités installées pour ces deux types d'énergie ont cru de manière quasiment exponentielle. Donc ce qui est plutôt une très bonne chose et c'est très très régulier. Aujourd'hui, au plan mondial, vous avez un peu plus de 1000 gigawatts de puissance installée pour l'éolien et 1400-1500 gigawatts de puissance installée pour le solaire. Et encore une fois, je répète que ça... Il y a toujours une croissance très très importante année par année de ces technologies, donc c'est plutôt très bon signe en matière de transition énergétique. Il faut noter que dans le cadre de ces développements, la Chine est toujours numéro 1, à la fois en termes de capacité installée d'éolien et de capacité installée de solaire. Pour le solaire, vous avez évoqué le photovoltaïque. Alors c'est effectivement la technologie la plus utilisée. On a aussi une autre technologie qui est le solaire à concentration qui est beaucoup plus réduit en termes de développement. Hein, mais c'est des grandes centrales solaires qui se trouvent dans des zones un peu désertiques. Où là, on utilise l'énergie du soleil comme énergie thermique plutôt. Alors que pour le photovoltaïque, on utilise l'effet photovoltaïque avec les mouvements d'électrons sur les panneaux, les cellules solaires, etc. qui créent donc de l'électricité. Et ça, encore une fois, vous avez dans le monde aujourd'hui un grand nombre de projets qui développent des centrales solaires qui peuvent faire 100 gigawatts, enfin qui peuvent être extrêmement importantes au niveau de l'électricité produite. Et vous avez beaucoup de sociétés qui sont impliquées là-dedans, beaucoup de sociétés de transition énergétique qui sont impliquées là-dedans. En France, vous avez plusieurs projets importants de centrales solaires qui ont été installées dans différentes régions de France. Alors le problème de ces centrales solaires, il y a une question également de superficie nécessaire pour les installer. Il y a l'emprise au sol qui est un élément important et quelquefois vous avez quelques résistances de la part des populations locales pour installer ce genre de choses. Et même chose
pour l'éolien
d'ailleurs. Même chose pour l'éolien.
Effectivement, parce que ces deux technologies se heurtent effectivement à la protection du paysage que certains s'évertuent à perpétuer. Oui. Comment on répond à ça?
Alors, chaque fois qu'il y a un projet de ce type qui est développé dans tous les pays du monde et notamment en France, d'abord il faut analyser le projet et puis il y a une enquête publique, c'est-à-dire qu'en général la population est mise à contribution pour qu'elle puisse donner son avis, voilà. Et puis bon bah en fonction des résultats, ça s'installe ou ça s'installe pas. Mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de réactions un petit peu négatives sur la mise en place de ces nouvelles technologies. Mais il faut savoir ce qu'on veut au bout du compte. Hein.
Vous savez que parfois quand on parle d'énergie, enfin, les sujets qu'on évoque tous les trois ce soir, ça me fait penser à des romans du 19e siècle avec l'arrivée du train dans certaines régions, donc Hermann Chatrillon, Maître Daniel Roque, où il fallait absolument éviter que le train arrive parce que c'était la fin de la civilisation pauvre. Et on a un peu, toute chose égale par ailleurs, peut-être un peu cet état d'esprit actuellement vis-à-vis des énergies renouvelables et de l'installation. Je dis pas que les propos et les arguments développés par ceux qui s'y opposent ne sont pas valables, ne sont pas pertinents, mais est-ce qu'on n'a pas un peu cette...
Moi, je crois pas que ça relève de cet état d'esprit parce que bon, les citoyens maintenant, ils sont quand même informés énormément, ils ont énormément d'informations sur, les nouveaux développements technologiques, les nouvelles inventions, etc. Donc, je crois que c'est plutôt un problème d'acceptabilité sociétale, enfin de pouvoir préserver son environnement proche, voyez. C'est vrai que quand vous avez une centrale solaire devant chez vous, bon, c'est peut-être pas très très agréable, même une ferme éolienne, il y a beaucoup de citoyens qui se plaignent d'avoir des mâts d'éoliennes à 150 mètres ou 200 mètres de chez eux, parce que c'est vrai que ça bouche un peu le paysage, quoi. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un engouement, un développement assez important maintenant de l'éolien en mer, et avec des technologies qui évoluent également, puisque maintenant on parle beaucoup d'éoliennes en mer flottantes. Alors ça coûte beaucoup plus cher, et là il y a une question économique qui se pose.
Alors j'aimerais bien qu'on vienne un instant sur le rôle que peuvent jouer les entreprises de l'énergie, qui travaillent dans l'énergie. Il y a bien sûr les énergies fossiles. Est-ce que cette transition avec ces entreprises est possible, les transitions énergétiques, ou est-ce qu'il va falloir en faire appel uniquement à nos capacités humaines de résilience? Parce que dans certains propos que vous avez développés tout à l'heure, je vous écoutais, je me disais, tiens, mais pour changer les choses, pour changer la donne, ça va être plus que compliqué.
Alors, en fait, toute cette transition énergétique qui va nécessiter la mise en place de nouveaux projets de toutes sources technologiques, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'il y ait derrière des entreprises solides qui soient capables de développer ce genre d'activité avec des résultats positifs à terme, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous avez un grand nombre de groupes internationaux qui s'investissent dans la transition énergétique. Et là, je crois qu'il faut séparer deux types d'entreprises. Vous avez, d'un côté, les européennes qui mettent un point d'honneur à développer la transition énergétique et à développer les énergies renouvelables, parce que pour elles, c'est une question d'éthique, c'est une question de stratégie à long terme pour justement limiter les conséquences négatives du changement climatique. Et puis de l'autre côté, vous avez les compagnies américaines. Alors où là, à l'instar du président des États-Unis qui a quitté l'accord de Paris et puis qui met la pression pour continuer à développer les huiles de schiste aux États-Unis, les compagnies américaines qui, elles, se concentrent essentiellement sur le pétrole. Voilà, il y a deux types de sociétés, mais en fait, tous ces gros projets qui coûtent des milliards de dollars, ou des milliards d'euros, faut pas se cacher la face. D'ailleurs, dans certains pays, il y a certains de ces projets qui ne sont pas viables économiquement en tant que tels, donc ils sont obligés d'être subventionnés par les États. Et c'est le cas en France, d'ailleurs. En France, on arrive maintenant à avoir les projets d'éolien à terre économiquement viables en tant que tels. Mais pour l'éolien offshore, parce que la France, dans le plan pluriannuel d'environnement du gouvernement français, il y a un programme de développement des fermes éoliennes en mer qui est assez important et qui est subventionné, parce qu'aujourd'hui, l'éolien en mer n'est pas viable économiquement en tant que tel. D'accord ? Donc il faut qu'il soit subventionné pour que les entreprises puissent effectivement investir dans ces projets-là et puis avoir un minimum de rentabilité. Je rappelle que le développement industriel n'a un sens que si les projets que vous lancez par les entreprises ont une rentabilité. Autrement, ils ne se font pas. C'est clair. Ça, c'est la base même de l'économie.
Une question, Stéphanie, peut-être ?
Oui, effectivement. Une question pour vous, Monsieur Guérit, puisque vous le disiez lors de votre présentation, vous enseignez, vous donnez des cours dans les grandes écoles et puis aussi aux collégiens. Peut-être que le retour n'est pas le même chez les plus petits et chez les plus grands, mais comment appréhendent-ils le changement climatique et les nouvelles technologies, vos élèves ?
Alors d'abord, c'est important de rappeler les bases de la transition énergétique à ces jeunes, qu'ils soient d'ailleurs élèves ingénieurs en grandes écoles ou qu'ils soient lycéens ou collégiens. Parce que ça, c'est important de bien connaître les bases. Et je parlais tout à fait au début de l'origine du CO2, vous voyez, la concentration de CO2. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes, qui est important de connaître pour les jeunes. Ils ont appris ça au collège, mais ils s'en rappellent peut-être pas. Et y compris d'ailleurs les élèves ingénieurs. Mais en général, les jeunes sont très très intéressés par cette problématique. Ils en entendent parler, donc forcément, ça les inquiète aussi. Le futur les inquiète beaucoup en matière de changement climatique. Et ils sont preneurs de toutes les informations, je dirais, intéressantes qui peuvent leur permettre à eux-mêmes de se faire leur propre idée et puis éventuellement d'agir de manière individuelle pour essayer de contribuer à leur petite échelle pour limiter un petit peu les dommages négatifs de ce changement climatique. Et en général, ils sont plutôt très très attentifs.
Et dans cette part jeune de la population que vous rencontrez, est-ce que vous rencontrez aussi des climato-sceptiques ? Est-ce que ça arrive ?
Alors, c'est très très rare. Il y en a quelques-uns, je suis d'accord. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment des proportions infimes.
Oui, c'est à la marge.
En général, les jeunes sont vraiment très très conscients du problème que nous avons en face de nous, qui est un problème un petit peu mondial. Et d'ailleurs, on s'y attaque et puis il faut faire en sorte qu'on réussisse à terme.
On fait une pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission.
On est toujours sur RVE, ça se passe près de chez vous, et nous sommes toujours avec Monsieur Guérit, après cette petite pause. Une question, parce qu'on parlait juste avant des jeunes, maintenant on va parler Union Européenne et peut-être décision. Qu'est-ce que vous pensez des décisions de l'Union Européenne d'interdire la vente des véhicules légers et aussi des poids lourds à l'horizon 2040? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste?
Quand on regarde les enjeux très très importants de la transition énergétique, on peut voir qu'il y a aujourd'hui un grand nombre d'initiatives qui sont lancées. Il y a des développements de nouveaux projets d'énergie renouvelable. On parle du développement des voitures électriques. On parle également du développement des voitures à hydrogène avec les piles à combustible. Donc il y a énormément de sujets qui sont traités justement pour essayer de, entre guillemets, limiter la casse. Et puis arriver en 2100 avec une augmentation de température qui soit acceptable. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que toutes ces évolutions, elles vont se faire probablement à un rythme plus ou moins important, mais ça ne va pas se faire dans les 10 ans à venir, ni dans les 15 ans à venir. Le monde de l'énergie, il a une inertie extrêmement forte. Comment voulez-vous qu'on change du jour au lendemain un monde énergétique qu'on a mis 3 siècles à bâtir? C'est là le problème. À titre d'exemple, prenons la mobilité. Vous parliez des véhicules. Prenons la mobilité. Savez-vous combien on a de véhicules légers dans le monde aujourd'hui? Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète. Savez-vous combien on a de véhicules légers?
Non, pas du tout.
Moi, je dirais 10 milliards.
Plus.
On a 1,4 milliard de véhicules légers sur la planète. Ben oui, parce que si aux États-Unis et en Europe, vous pouvez avoir dans certains foyers deux, trois. Mais regardez en Afrique, en Amérique latine, oui. En Asie du Sud-Est, il y a des gens qui n'ont aucune voiture. Alors, 1,4 milliard aujourd'hui de véhicules thermique sur la planète. Comment voulez-vous, aujourd'hui, qu'on a quasiment un nombre extrêmement faible de véhicules électriques, on en a à peu près 5%. Comment voulez-vous qu'en 10, 15 ans, 20 ans, on puisse modifier ce schéma-là? C'est impossible. Donc il va falloir du temps. Il va falloir du temps.
Comment on va faire, excusez-moi, juste une parenthèse, comment on va faire pour ces pays qui veulent se développer et avoir accès à un niveau de vie comme le nôtre?
C'est une très bonne question. On ne va pas empêcher tous ces pays-là de vouloir se développer comme nous on l'a fait il y a un siècle ou deux siècles. Et ça m'amène à préciser le fait qu'effectivement, il y a une corrélation extrêmement forte depuis toujours entre le PIB global d'un pays et sa consommation d'énergie primaire. En moyenne. Donc, on a atteint aux États-Unis, dans les pays OCDE, en Europe, un niveau de confort quand même aujourd'hui qui est nettement suffisant. Pourquoi vouloir l'augmenter? On peut rester à ce niveau-là. Par contre, voire même éventuellement le diminuer. Il faut se partager la facture en quelque sorte. Mais vous n'avez pas empêché les pays d'Asie du Sud-Est et les pays d'Afrique de vouloir continuer de se développer pour avoir un meilleur niveau de vie. Et pour ça, ils ont besoin encore un peu de pétrole, un peu de gaz et tout ça. Alors pour venir à l'Europe, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035, ça venait sans doute d'une idée tout à fait positive, mais faut voir si ça peut se faire de manière concrète, et je pense que c'est très compliqué. D'ailleurs, vous avez certains constructeurs, et puis il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent un peu aujourd'hui contre cette contrainte, qui peut-être n'a pas grand sens, à vrai dire.
Effectivement, mais alors pour le coup, ça va être un ancrage plus local. À côté de chez nous, dans l'Essonne, Vinci vient de réaliser une première mondiale avec cette courte bande qui permet de charger pendant une minute sur l'autoroute son véhicule électrique. Est-ce que ce genre d'initiative, parce que véhicule électrique veut dire station de recharge, donc ça soulève après d'autres questions, mais pensez-vous que ce genre d'initiative peuvent renforcer le parc électrique?
Aujourd'hui, il y a un engouement pour le développement des voitures électriques, quoique cet engouement, je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais il est en train de baisser un petit peu. Parce que les futurs propriétaires de véhicules se posent quand même pas mal de questions sur les avantages versus inconvénients des véhicules électriques. Pour que ça fonctionne, vous avez parfaitement raison, il faut que l'infrastructure des bornes de recharge soit suffisamment importante pour que les gens ne se retrouvent pas en panne sèche de courant sur une autoroute et puis ils ne savent plus quoi faire. Et ça, c'est un frein aujourd'hui. Il y a certaines sociétés, y compris d'ailleurs Total Energy, qui développent de plus en plus maintenant des stations sur autoroute avec un grand nombre de recharges qui peuvent recharger le véhicule en un temps record. Et puis bon, vous avez des tas de projets de recherche, notamment il y a Tesla qui a développé aussi des bornes de recharge qui rechargent les batteries de manière extrêmement rapide. Oui, ça va se développer. Il y aura probablement, on continuera de développer, de construire des voitures électriques, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, par rapport au stock de véhicules dans le monde, le nombre de véhicules électriques, il est de l'ordre
minoritaire
à 5%.
Bien sûr.
Vous avez un pays qui est un exemple en matière, c'est la Norvège. La Norvège, c'est un pays que je connais bien personnellement aussi, que j'y ai vécu 4-5 ans, dans une vie antérieure. Là, c'est un exemple. Et là, ça marche bien. Et ça marche bien, c'est un pays qui est beaucoup moins peuplé que la France. Et puis voilà, il y a une stratégie sur la transition énergétique qui est partagée par tout le monde.
Il va nous falloir conclure pour cette émission, parce que on pourrait en discuter pendant des heures, tellement c'est existentiel et c'est important pour les futures générations. Stéphanie, on pourrait terminer par une question. Est-ce qu'on peut être raisonnablement optimiste pour l'avenir en matière d'énergie, en matière de développement et de transition, enfin d'environnement?
Je crois qu'il faut rester optimiste de toute façon. Hein. Il faut rester optimiste, simplement, probablement, on va quand même s'orienter vers un environnement où on aura une hausse de température par rapport à l'ère pré-industrielle qui sera de l'ordre de 2,5 degrés, avec des conséquences qui vont se faire jour, notamment dans certains pays, je pense notamment aux petites îles du Pacifique et ailleurs, où en raison de la montée des eaux qui va se dilater, hein, les mers vont se dilater, il va y avoir probablement des mouvements de personnes, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la dernière COP30 à Belém, une des conclusions quand même qui va dans le bon sens, c'est que les participants ont décidé que les pays riches augmentent leur aide financière aux pays en voie de développement qui peuvent avoir des soucis en liaison avec le changement climatique. L'idée, c'est de leur offrir à peu près 300 milliards de dollars par an pour les aider à s'adapter et puis à investir dans des projets de transition énergétique.
Très bien. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet qui est passionnant. Monsieur Guérit, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se dit sans doute à bientôt pour reparler de ce sujet important, puis pour reparler d'autres choses aussi.
C'est moi qui vous remercie également.
Stéphanie, merci, puis
merci.
À bientôt.
À très bientôt.